Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, 2019, année noire pour les féminicides.
Le chiffre total pour l'an dernier, 121 femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, est déjà atteint. La France peut-elle s'appuyer sur les Kurdes pour garder les djihadistes en Syrie? Ce sera la question du 8h. Des Français ont déjà réussi à s'échapper. Et puis des éoliennes, oui mais pas chez moi. Dans la Meuse, un village vient de repousser un opérateur un peu trop pressant.
C'était, oui, de toute façon, si vous prenez pas celle-là de 150 mètres, le prochain coup, elles en feront 180 ou 200. Et de toute façon, si ça ne vous va pas, on vous poursuivra en justice et on les mettra quand même.
Pourquoi tant de haine contre l'éolien? Ce sera notre débat à 8h20.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Elle avait 73 ans. Son corps sans vie a été retrouvé tôt lundi matin à son domicile d'Issoudun dans l'Indre. Son mari s'est accusé du meurtre. Elle serait à ce jour la 121e victime de féminicide depuis le début de l'année. Le chiffre pour la totalité de l'an dernier est donc déjà atteint. Ce qui a poussé une trentaine de femmes à manifester hier soir près de l'Élysée. Madeleine Da Silva du mouvement Nous Toutes.
L'idée, c'était de faire du bruit contre les violences. Il y avait des réveils, il y avait des casseroles pour réveiller Emmanuel Macron et le sortir de son silence. Il ne répond à rien, il ne réagit pas, il ne se mobilise pas face aux 121 féminicides qui ont eu lieu depuis le début de l'année, d'autant que c'est autant que sur toute l'année 2018, alors qu'on est en octobre. Il ne fait pas ce qu'un président de la République peut faire, c'est-à-dire déclarer une mobilisation nationale pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. D'accord ? Donc c'est une question de volonté et de priorité.
Propos recueillis par Laura Mauchi. Et c'est dans ce contexte que les députés viennent de voter à la quasi-unanimité la mise en place d'un bracelet anti-rapprochement pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Il déclenchera automatiquement un signal dès que le conjoint ou l'ex-conjoint aura dépassé le périmètre fixé par le juge. Dans Lyon, un système a déjà prouvé son efficacité. C'est un bouton d'alerte très discret que peuvent acheter des femmes qui s'estiment en danger. Il coûte 50 euros. Reportage d'Anne Hénaf.
Lorsque cette femme de 49 ans décide de quitter son compagnon, ça se passe mal, très mal.
Donc avec menace de mort, à partir du moment où on porte plainte, on ressort de la gendarmerie, on n'a pas un garde du corps derrière soi. On n'est plus protégé du tout. J'étais tétanisée. On regarde tout le temps partout, on est parano en fait, hein. On ne sait pas trop ce qui nous attend.
Elle s'équipe de ce petit bouton clipsé à la bretelle de son soutien-gorge.
J'aime bien aller courir, je fais du sport en nature, du VTT, ça me sécurise pour continuer mes activités.
Elle n'a pas eu à s'en servir, mais si elle avait appuyé deux fois sur la pastille, un SMS aurait été envoyé à cinq de ses proches, dont Christine Burtin-Lotte. Elle dirige le centre social de Tonnerre et elle a testé le dispositif.
On reçoit un SMS, SOS, je suis en danger.
Il y a une petite carte.
Voilà, elle est localisée. Elle était à tel endroit, donc là on se pose pas de questions, il faut intervenir.
Un appui plus long déclenche une alarme. Marie-Laure Boire-Deveau dirige l'Adavirs, l'association qui distribue ses boutons gratuitement si besoin. Elle connaît une victime qui s'en est servie.
Elle a croisé en supermarché son ex-conjoint. Il lui a dit « voilà, maintenant tu me suis ». Donc il l'a tenue par le bras, mais avec un ton froid et intimidant qui lui a fait très vite peur. Donc elle a appuyé longuement sur ce bouton. Lui a enlevé son bras. Il a décidé de partir. Concrètement, ça vient compléter le dispositif téléphone grave danger qu'on connaît. C'est quand même quelque chose qui ne nécessite pas d'être dans un parcours judiciaire.
Une trentaine de femmes en sont équipées dans tout le département de Lyon.
Reportage signé Anne Le Hénaf. Première haie franchie pour la loi bioéthique, le texte qui ouvre notamment la voie à l'extension de la PMA a été voté à une large majorité à l'Assemblée. Prochaine étape, le Sénat, en janvier.
RTL Matin, il est 8h04.
Décidément, les grands débats sont à la mode au gouvernement.
Cette fois, c'est le secrétaire d'État aux transports qui va s'y coller. C'est une info RTL. Jean-Baptiste Djebbari va tenter d'arrondir les angles sur la réforme des retraites. Une nouvelle grève à la RATP, illimitée cette fois, est prévue à partir du 5 décembre. Le ministre va recevoir les syndicats avant de débattre directement avec les cheminots le mois prochain. William Galibert.
Oui, cette date du 5 décembre paraît lointaine, mais c'est déjà une obsession pour l'exécutif et pour cause. Derrière, il y a le spectre de 1995, trois semaines de paralysie totale et le plan Juppé pour les retraites avait fini à la poubelle. Pour éviter le même sort, c'est le tout nouveau ministre des Transports qui va jouer les démineurs. En ce moment, des rendez-vous ont lieu chaque semaine avec les syndicats. Et d'après nos informations, dans un mois, un grand débat sera organisé au siège, à la maison de la RATP. Jean-Baptiste Djebbari fera face aux cheminots pour un jeu de questions-réponses qui s'annonce houleux. Cette grève, elle sera suivie, elle sera forte, mais en dialoguant, on peut trouver quelques convergences, se persuade Jean-Baptiste Djebbari. L'un de ses collègues au gouvernement est beaucoup moins diplomate. Il prédit, à la RATP, ils partent à 50 ans avec 3000 euros de pension. Personne ne va les plaindre et ce ministre assume, il faudra aussi jouer l'opinion contre les grévistes en pariant que la France de 2019 n'est pas celle de 1995.
Les infos RTL de William Galibert. Cette grève qui dure aux États-Unis chez General Motors depuis le 16 septembre, la production du géant automobile est paralysée. Pour la première fois hier, Mary Barrat, la PDG de GM, a rejoint la table des négociations. Le groupe perd chaque jour de grève qui passe 100 millions de dollars.
Il est 8h05 sur RTL.
Bras de fer autour d'un éventuel cessez-le-feu en Syrie.
Le vice-président américain Mike Pence doit rencontrer demain le président turc Erdogan pour négocier un arrêt des combats contre les Kurdes. Hors de question, dit en substance Erdogan. C'est ce qu'il a confié à des journalistes en marge d'un déplacement. Il veut d'abord chasser les terroristes kurdes, ce sont ses mots, du nord de la Syrie.
Dans ce contexte, la France a-t-elle encore raison de faire confiance aux Kurdes pour garder les camps de djihadistes? Eh bien, c'est la question du 8h.
Avec vous, Émilie Beaujard, on parle de plusieurs milliers de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui les Kurdes ont encore les moyens de les maintenir prisonniers ?
C'est en tout cas de plus en plus compliqué. Il faut imaginer ces camps. Dans celui d'Al-Hol, par exemple, il y a 70 000 personnes gardées par quelques centaines de combattants kurdes. Des combattants kurdes débordés et ils ne s'en cachent pas. Ils ont appelé à plusieurs reprises les pays étrangers à prendre en charge leurs prisonniers. Car avec l'offensive turque, le camp manque d'eau, de nourriture. Les organisations humanitaires internationales ont toutes quitté la zone et les tentatives d'évasion et de mutinerie sont quotidiennes. Et surtout, les hommes de Daesh, ceux qui avaient échappé aux arrestations, rôdent autour du camp. Ils viennent mettre la pression sur les gardes et ont déjà dit aux femmes qu'ils allaient bientôt venir les chercher.
Et concrètement, Émilie, c'est quoi le risque aujourd'hui ?
Eh bien, en cas d'évasion, c'est de perdre la trace de ces djihadistes français que les services français ont mis plusieurs années à traquer et arrêter. Parmi eux, il y a des combattants de Daesh très recherchés, certains impliqués dans les attentats de Nice et Paris. L'autre risque, c'est que l'État islamique les récupère pour venir grossir leur rang. Et c'est déjà en train d'arriver puisque, selon les familles en France, trois Françaises et leurs enfants ont été repris par Daesh suite à leur évasion ce week-end.
La question du 8h avec Émilie Beaujard.
Et puis on ne sait pas si c'est lié à ce conflit en Syrie. C'est une information RTL de Guillaume Chiez. Trois personnes ont été interpellées cette nuit à Nantes pour jet de peinture et tentative d'incendie du consulat de Turquie. Le Liban appelle à l'aide depuis les incendies géants qui ravagent l'ouest du pays. Depuis lundi, un civil a trouvé la mort. Les feux ont aussi touché la Syrie voisine. Jean-Claude Juncker joue les prolongations à la tête de la Commission européenne. Il devait céder son siège le 1er novembre, mais la nouvelle équipe n'est toujours pas prête. Il faut notamment trouver une remplaçante à la française Sylvie Goulard, retoqué la semaine dernière. Cette prolongation sera actée aujourd'hui au Parlement européen.
Dans un instant, encore un village qui dit non aux éoliennes.
RTL Matin, il est 8h07.
Matmut.fr.
RTL Matin.
Il est 8h09 sur RTL, la suite du journal avec Jérôme Florin et vous Yves Calvi.
Une éolienne ? Oui, mais alors pas chez moi.
Alors que la filière des énergies renouvelables connaît une réelle dynamique, elle représente aujourd'hui plus de 20% de la consommation française. Un colloque est d'ailleurs organisé aujourd'hui et demain à Paris. Les opérateurs se heurtent encore souvent à des communes récalcitrantes. À Aisne, en Argonne, dans la Meuse, les habitants viennent de bouter hors de chez eux une filiale de Total qui voulait installer des éoliennes pile sur un champ de bataille de Verdun. Sacrilège. La cour d'appel de Nancy vient de leur donner raison, Samuel Goldschmidt.
Il devait y avoir 10 éoliennes en lisière d'Aisne à 15 km de Verdun.
Alors les éoliennes devaient être directement implantées sur la ligne de front des champs de bataille de Verdun, au pied de la deuxième nécropole de la Meuse, après Douaumont, où il y a 6661 sépultures.
À la tête de l'association Meuse-Argonne Environnement, Sylvain Coin est devenu un farouche opposant en observant les méthodes des promoteurs lors d'une réunion d'information.
Voyant que la salle n'allait pas dans son sens après avoir fait des promesses d'argent, ça gêne pas, ça fait pas de bruit, et à la fin, voyant que la salle était hostile, et ben c'était oui, de toute façon, si vous prenez pas celle-là de 150 mètres, le prochain coup, elles en feront 180 ou 200, et de toute façon, si ça vous va pas, on vous poursuivra en justice et on les mettra quand même.
4 ans de lutte avec de nombreux rendez-vous au tribunal.
Moi, j'ai été menacé, on a menacé ma famille, on m'a crevé les pneus devant la maison, on m'a violenté, ça amène de la corruption, ça divise, ça, tout le monde le dit, il faut le vivre pour le croire, c'est de la grosse industrie, et ils sont prêts à écraser tout pour arriver à les mettre. Et croyez-moi, c'est un impressionnant.
Le projet a été interdit en cour d'appel, mais l'association reste active. Les promoteurs ont la réputation de revenir à la charge.
Samuel Goldschmidt.
On en débat dans une petite dizaine de minutes.
En football, déjà 6 pays qualifiés pour l'Euro 2020. La Belgique, l'Italie, la Russie, la Pologne, l'Ukraine et l'Espagne qui a arraché un match nul hier soir, un partout dans le temps additionnel en Suède. Les Français, eux, retenteront leur chance face à la Moldavie. Ce sera le 14 novembre. On a découvert hier le tracé du Tour de France qui fera l'impasse sur la moitié nord du pays l'an prochain. Il partira de Nice. 2 étapes programmées en Auvergne. La 13e s'élancera de Châtel-Guyon. Un rêve éveillé pour le président de l'association cycliste locale, le Team Cycliste, Émile Labeille.
Pour moi, personnellement, c'est l'apothéose. C'est bien pour le club. En plus, on est une école de cyclisme. Donc, ça peut que nous amener des jeunes. Et les jeunes, c'est la relève pour demain. Et puis peut-être que dans ces jeunes, on a les des champions de demain. Hein. C'est la cerise sur le gâteau pour moi. Pour des gens comme Julien Alaphilippe, je pense que lui, s'il a envie de se donner, il va se régaler. En plus, il est chez lui. Maintenant, de toute façon, on est dans les starting blocks. Donc en juillet, boum, c'est parti.
Ce sera parti. Donc en juillet, c'était le président de l'association cycliste de Châtel-Guyon avec Guillaume Frixon.
La photo du jour.
Alors, c'est pas très radiophonique, non. Mais on va essayer quand même. Photo relevée par un journaliste de l'AFP, oui. Celle du tract du Rassemblement National à Forbach, en Moselle, pour les municipales. Forbach, la reconquête. On y voit deux hommes, oui. Et une très jolie jeune femme brune, au regard conquérant. Le hic, c'est qu'elle n'a peut-être jamais mis les pieds à Forbach. Elle n'est peut-être même pas française, puisqu'elle provient d'une banque d'images.
Ah oui, d'accord.
Alors, les deux messieurs, eux, en revanche, ont l'air bien vrais.
Oui, enfin, elle a l'air plutôt l'air de se sortir d'un catalogue d'escorte girl. C'est assez étonnant. Je ne sais pas où ils l'ont trouvé, mais c'est un peu troublant. C'était donc le show.